un podcast France Culture.
La guerre en Ukraine, aucune pause dans les bombardements russes au lendemain d'une nouvelle mise en demeure de Washington, entre autres places visées, une colonie pénitentiaire dans la région de Zaporijjia. Correspondance de Kiev dans un instant. Le pire scénario de famine est en cours à Gaza selon un organisme international de surveillance de la faim soutenu par l'ONU. Dans ce journal, témoignage du journaliste palestinien Rami Abou Jamous, joint à Gaza. Et le point sur les initiatives humanitaires en cours avec Nathanaël Charbonnier. Nous serons en Chine où les pluies diluviennes ravagent les environs de Pékin ainsi que 10 provinces du nord, de l'est et du sud du pays. La politique en France, c'est une législative partielle qui électrise les Républicains, celle de la deuxième circonscription de Paris. Le parti investit Michel Barnier, il trouvera sur son chemin Rachida Dati, qui, pour la soutenir en pareilles circonstances, élément de réponse avec Mélanie Kuzelevich. Enfin, avec Caroline Félix, nous prendrons acte de l'engagement de X qui, depuis quelques jours, oblige les internautes européens à faire vérifier leur âge avant de consulter certains contenus sensibles. En Ukraine, au moins 17 morts et 35 blessés. Bilan provisoire de frappes russes sur les régions de Zaporijjia. C'est une prison qui, là, a été prise pour cible. Il s'agissait d'une frappe délibérée, intentionnelle et non accidentelle, a dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux, estimant que les Russes ne pouvaient ignorer qu'ils visaient des civils dans cet établissement. Fin de citation. Hier, Donald Trump lançait un nouvel ultimatum au Kremlin. Les précisions depuis Kiev de Bastien Borille.
Ignorer les menaces adressées au Kremlin, ainsi se résument les intentions russes de la nuit dernière. Il est 23h28, deux avions bombardiers envoyés par Moscou passent à l'aplomb d'une prison ukrainienne à quelques kilomètres de Zaporijjia. Huit bombes de 500 kilos sont larguées, en tout ce sont 4 tonnes d'explosifs qui s'abattent sur l'établissement pénitentiaire, tuant sur le coup une vingtaine de personnes. Mais aujourd'hui, la communication de Kiev reste floue. On ignore à ce stade si parmi la vingtaine de morts figurent aussi en parallèle des soldats des forces ukrainiennes. Car l'acharnement de l'armée russe sur une seule et même cible avec une telle puissance de feu peut laisser penser que cette prison servait de couverture à une base de commandement. L'hypothèse est au conditionnel et elle devrait le rester tant l'aveu d'une erreur stratégique qui plus est dans cette région très disputée passerait mal pour Kiev. Quoi qu'il en soit, cette frappe qualifiée de crime de guerre par les autorités ukrainiennes intervient quelques heures seulement après un nouvel ultimatum américain. Le Kremlin n'a désormais plus qu'une dizaine de jours pour cesser le feu, mais il n'en prend pas le chemin.
Le Kremlin qui regrette, il a regretté à quelques minutes, un ralentissement de la normalisation de ses relations avec Washington. Et dans le même temps, le Kremlin dit maintenir son engagement pour résoudre le conflit en Ukraine. Après la Jordanie et les Émirats arabes unis, l'Allemagne et l'Espagne ont annoncé leur intention de mettre en place des ponts aériens humanitaires vers Gaza depuis dimanche. Israël a en effet relâché très légèrement l'étau sur l'enclave palestinienne après plus de 4 mois de blocus quasi total empêchant la presque totalité de l'aide humanitaire d'être acheminée. Environ une centaine de camions d'aide entrent désormais quotidiennement dans le territoire. Comment les survivants perçoivent-ils ces acheminements d'aide? Nos confrères de France Inter ont pu joindre à Gaza le journaliste palestinien Rami Abou Jamous. Ses voisins ont été tués la nuit dernière dans un raid israélien. Son témoignage.
On a déjà parlé beaucoup de fois qu'il y a un génocide, beaucoup de fois qu'il y a une volonté d'affamer la population. Il y a le ministre, les deux ministres d'extrême droite, mais aussi il y a le ministre de la guerre qui l'a dit clairement qu'on va faire ces points de distribution pour pousser la population à aller à Rafah. Il a parlé aussi de ce qu'on appelle la ville humanitaire. C'est un peu l'euphémisme pour dire c'est un camp pour entasser toute la population de Gaza parce que dans le meilleur des cas, ils vont être sous des tentes pour les déporter ailleurs dans des pays étrangers. On utilise toutes les méthodes, la tuerie par les massacres et les bombardements, la tuerie avec la famine et la tuerie en allant chercher à manger parce que ces points de distribution, ce sont que des points de distribution de la mort parce qu'on risque notre vie. Hier, avant-hier, il y a eu 130 camions qui sont passés pour la première fois, ce chiffre, c'est vrai, mais malheureusement, on ne le voit pas parce que ça a été attaqué par les affamés à Gaza. Il y a une bonne majorité pour les hôpitaux, ce qui était quelque chose chose de très bien, surtout que le système sanitaire et les hôpitaux, c'est un système qui a été anéanti malheureusement, et surtout que la majorité des morts, ce sont des morts qui sont dans les hôpitaux, les bébés, les enfants et les femmes, et c'est pour ça que faire passer ce genre de médicaments, c'est très bien. Mais tout ce qui est passé pour le moment, c'est une goutte dans l'océan de besoins de la population de Gaza.
Le journaliste palestinien Rami Abou Jamous. Bonjour, Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Ce témoignage dit le chemin qu'il reste à parcourir pour que l'offre humanitaire soit à la hauteur des urgences. Dans ce contexte, Nathanaël, toute mobilisation, même en rang dispersé, est importante.
Oui, alors tout d'abord, pour comprendre ce qui se passe à Gaza, on peut s'appuyer sur les déclarations de l'ONU ce matin encore, qui expliquent que la catastrophe rappelle les pires famines du XXe siècle en Éthiopie et au Biafra. Et si on entre un petit peu plus dans le détail, les dernières macabres classifications des agences mondiales expliquent que les 5 niveaux d'insécurité alimentaire sont atteints à Gaza. Les chiffres donnent près de 2 millions d'habitants en situation de crise alimentaire, c'est le fameux niveau 3, 925 000 en urgence alimentaire niveau 4 et 244 000 en situation de catastrophe alimentaire niveau 5. Ces données datent du mois de mai, elles sont en train d'être réactualisées avec une certitude déjà. Oui, la situation s'est aggravée, notamment chez les plus jeunes. Plus de 20 000 enfants ont été traités contre la malnutrition aiguë entre avril et mi-juillet, dont plus de 3 000 souffrent de malnutrition sévère. Dans ce contexte, l'ONU et ses services ne se font aucune illusion. Les largages aériens de vivres récemment autorisés par Israël ne seront pas suffisants pour inverser la catastrophe humanitaire, mais elles auront le mérite d'exister. L'Espagne a annoncé qu'elle larguerait 12 tonnes de nourriture. L'Allemagne a annoncé organiser avec la Jordanie un pont aérien pour acheminer denrées alimentaires et fournitures médicales à Gaza. Et puis hier, lundi, des avions jordaniens et émiratis ont largué 17 tonnes d'aide.
Merci à vous, Nathanaël Charbonnier. L'ONU exhorte l'Iran à cesser d'appliquer la peine de mort. L'Iran est en effet le deuxième pays au monde en nombre d'exécutions après la Chine. Avec 612 exécutions au moins depuis le début de l'année, la situation est profondément inquiétante selon le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui dénonce les flous d'une justice expéditive. Après la guerre avec Israël, la République islamique semble en effet plus que jamais s'appuyer sur la peur pour maintenir son autorité. Claude Guibal.
Depuis le début de l'année, presque 3 personnes pendues chaque jour en Iran, déjà le double du nombre d'exécutions à la même date l'an dernier, elle-même une année record. Volker Türk, le haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, appelle à un moratoire immédiat. Justice à huis clos, procès inéquitable, ses services affirment que plus de 40% des exécutions cette année sont liées à la drogue et d'autres parfois sur des accusations telles que l'inimitié envers Dieu ou encore la corruption sur terre, des accusations utilisées pour réprimer les dissidents. Avec la guerre avec Israël, l'Iran a intensifié la répression, arrêtant des centaines de personnes avec plusieurs exécutions pour terroriser la population. Faux, dit Téhéran, qui dit ne réserver la peine de mort qu'aux cas les plus graves. L'ONU surtout s'inquiète d'un projet de loi sur l'espionnage examiné en ce moment par le Parlement. Il redéfinit le crime de collaboration avec l'ennemi, passible de la peine de mort, en l'élargissant aux communications en ligne, la collaboration avec des médias étrangers ou encore l'alignement idéologique, une arme absolue pour museler toute dissidence.
Claude Guibal, 30 morts et plus de 80 000 évacuations à Pékin suite à des pluies diluviennes qui n'épargnent ni les régions limitrophes de Hebei et Tianjin, ni les 10 provinces du nord, de l'est et du sud de la Chine. Des pluies diluviennes qui ont provoqué des glissements de terrain. Le gouvernement a débloqué une somme de 42 millions d'euros à destination des opérations de secours. Les explications à Pékin de la correspondante de Radio France Internationale, Cléa Bodhurst.
Les images de dévastation sont impressionnantes. Routes détruites, villages privés d'électricité, voitures emportées bougent jusque dans les habitations. Le président Xi Jinping appelle à renforcer les secours et à se préparer au pire, alors que le pays entre dans la période critique du contrôle des crues, dite fenêtre juillet-août. Les autorités font état d'au moins 34 morts, notamment dans le district montagneux de Miyun, à la périphérie nord-est de la capitale. Deux bourgs y ont reçu jusqu'à 54 cm de pluie. Plus de 80 000 personnes ont été évacuées à Pékin, souvent mise en quarantaine par précaution sanitaire. D'autres évacuations sont en cours à Tianjin et dans la province voisine du Hebei, où un glissement de terrain a tué 4 personnes. Face à l'ampleur de la catastrophe, Pékin a déclenché une alerte rouge, suspendu les écoles et les chantiers et interdit toute activité touristique. Le président chinois appelle à sauver chaque vie, alors que de nouvelles pluies sont attendues dans les prochaines heures.
Il est presque 12h40, vous écoutez le journal de France Culture. La réaction du patron du MEDEF à l'accord commercial évoqué et non signé ce week-end en Écosse entre l'Union européenne et les États-Unis. Il y a eu des annonces assez prématurées, comme toujours de la part de Donald Trump, assez ronflantes, triomphalistes, mais je crois, ajoute-t-il, que le match n'est pas fini. De la houle chez LR, la hache de guerre dont le manche dépassait est déterré par Rachida Dati qui a détesté apprendre par le parti la candidature à la législative partielle à venir de la deuxième circonscription de Paris, de Michel Barnier, investi hier soir par la commission ad hoc à la quasi-unanimité. Qu'importe, l'actuel ministre de la Culture, candidate à la mairie de Paris, défiera l'éphémère Premier ministre. Bonjour Mélanie Kuzadevitch.
Bonjour Mathieu.
Mélanie, première question, à l'heure qu'il est, qui soutient Rachida Dati?
Et peut-elle trouver du soutien dans le camp présidentiel? Question essentielle pour celle qui a rejoint les macronistes pour les élections européennes avant de reprendre sa carte chez les Républicains. À Matignon, en tout cas, le Premier ministre se tient à l'écart. C'est une affaire interne à LR, insiste-t-on dans l'entourage de François Bayrou. Chez Renaissance, la nomination de Michel Barnier n'a pas été appréciée. Aucune coordination entre LR et son parti, regrette Gabriel Attal, alors que le député sortant siégeait dans les rangs du parti présidentiel. Renaissance qui devra quand même trancher entre accepter la candidature de Michel Barnier, soutenir la ministre de la Culture ou bien présenter son propre candidat dans les prochains jours. En attendant, Rachida Dati peut se targuer de bénéficier du soutien clair, sincère et précieux de Carl Olive, le député macroniste des Yvelines, tout comme sur celui de la députée Horizon Naïma Moutchou. Je la soutiens personnellement, a souligné la vice-présidente de l'Assemblée.
Et si Rachida Dati ambitionnait de retirer sa candidature à la législative en échange d'un soutien solide de LR pour sa campagne municipale?
Eh bien Mathieu, le retrait de sa candidature, c'est en tout cas ce pourquoi plaide son parti pour tenter d'éteindre l'incendie. Les Républicains ont nommé Agnès Severin, la patronne de la fédération LR à Paris, pour mener des discussions avec Rachida Dati afin de bâtir une liste de rassemblements avec les Parisiens. C'est la candidate la mieux placée pour les municipales à Paris, déclare ce matin Jonas Haddad, porte-parole adjoint des Républicains, persuadé de pouvoir trouver un accord dans les jours qui viennent. Même espoir chez Valérie Pécresse, Barnier à l'Assemblée et Dati au municipal à Paris. C'est la solution de la présidente de la région Île-de-France. Rachida Dati ira-t-elle jusqu'au bout ou pas? Difficile à dire. En attendant, elle est partout et occupe pleinement l'espace médiatique, en plein démêlé avec la justice.
Merci à vous, Mélanie Kuzadevitch. Démographie à la rude, la population de la Nouvelle-Calédonie a connu ces dernières années un recul historique et s'élève désormais à 264 596 habitants, selon les résultats de recensement 2025 présentés ce matin, avec plusieurs facteurs évoqués, vieillissement, recul de la natalité, crise du Covid, troubles insurrectionnels de mai 2024. Le réseau social X, ex-Twitter, oblige depuis quelques jours les internautes à faire vérifier leur âge, étape obligatoire avant de consulter certains contenus sensibles, notamment du contenu pour adultes. C'est le cas au Royaume-Uni depuis vendredi dernier, mais X a étendu cette règle aux utilisateurs de l'Union européenne. Bonjour Caroline Félix.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le réseau social d'Elon Musk semble rentrer dans le rang comme le souhaitait la Commission européenne.
En raison des lois locales, nous restreignons temporairement l'accès à ce contenu, le temps de vérifier votre âge. Voilà le message qui s'affiche lorsque certains utilisateurs essaient de visionner des comptes pornographiques sur le réseau social. L'internaute est renvoyé vers une page qui lui montre la marche à suivre pour vérifier qu'il est bien majeur, notamment en envoyant une photo de sa pièce d'identité. Dans les prochaines semaines, il pourra aussi envoyer une photo de lui. Une intelligence artificielle viendra déterminer si la personne sur la photo a plus ou moins de 18 ans. Des mesures assez sérieuses. Donc.
Et X explique qu'il doit faire respecter ces lois au nom du Digital Service Act de l'Union européenne.
Oui, ce texte prévoit notamment des règles strictes pour protéger les enfants. Elon Musk a fini donc par l'appliquer. C'est un changement de ton en quelques mois. On le rappelle, en juin 2024, il affirmait que ses utilisateurs devraient pouvoir créer, diffuser et visionner des contenus sexuels. Quelques semaines plus tard, il insultait carrément le commissaire européen au numérique Thierry Breton, lui écrivant, je cite, d'aller se faire foutre. En janvier, il le traitait encore de tyran. Mais Mais depuis, la situation a bien changé pour le patron de X. Il n'est plus en position de force. Sur le plan politique, il a rompu avec Donald Trump et niveau affaires, il est en délicatesse. La patronne de X, Linda Yaccarino, a démissionné il y a 2 semaines, après 2 ans à la tête du réseau social. L'action de ses voitures Tesla n'en finit pas de chuter. Nous pourrions connaître quelques trimestres difficiles. Voilà ce qu'il a déclaré il y a peu. Autant de raisons donc qui expliquent sans doute qu'il fasse profil bas.
Merci à vous, Caroline. Félix, quelques mots de météo pour refermer ce journal. Temps calme et sec sur la plus grande partie du pays. Ciel nuageux près des côtes de la Manche et de l'Atlantique, ainsi qu'à proximité des frontières du Nord. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia, la technique Ludovic Auger.